Frères et sœurs, une vocation, c'est quelque chose de beau. Quand on est appelé, on a beaucoup de chance. Et aujourd'hui, dans l'Église universelle, donc, nous prions pour les vocations, et particulièrement pour les vocations de prêtres et les vocations de personnes consacrées. Alors, je vais essayer de vous dire trois choses. D'abord, de prendre deux exemples de vocations qui nous sont Saint-Pierre, Saint-Vincent de Paul. Et puis après, de réfléchir quelques minutes avec vous, pourquoi Dieu veut-il se servir d'intermédiaire? Pourquoi y a-t-il besoin de vocation? Et puis après, je viendrai à quelques questions plus pratiques. Voilà. Alors d'abord, deux beaux exemples de vocation. Dans les deux premières lectures de ce jour, nous montrent deux belles facettes de la vocation de Saint-Pierre. Vous vous rappelez de la première lecture, c'est un passage assez fondamental, c'est un extrait du discours de Saint-Pierre le jour de la Pentecôte. Alors, Saint-Pierre est tout feu, tout flamme ce jour-là, et il prend la parole, il s'exprime d'une voix forte, hein, il s'exprime avec assurance. Oui, comprenez ce qui se passe aujourd'hui, parce que les gens spontanément, n'ont peut-être pas la clé, mais lui, il a la clé. Alors, il la transmet aux autres. Comprenez ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Que tout le peuple d'Israël en ait la certitude. Ce même Jésus que vous, vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. Alors, ceux qui l'entendent sont remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, que devons-nous faire? Mais convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors on voit Saint-Pierre, la beauté de sa vocation, il a conscience ce jour-là en particulier qu'il est comme un intermédiaire, comme bon, il connaît sa faiblesse, hein, là il n'y a pas de problème, il en a pris conscience. Mais en même temps, il sait qu'il a été choisi pour proclamer cette parole, sinon les gens n'ont pas la clé pour comprendre ce qui se passe ce jour-là. Alors, dans la deuxième lecture aussi, c'est une lecture de Saint-Pierre, un extrait de la première lettre de Saint-Pierre apôtre. Alors, c'est un contexte complètement différent. Il s'adresse à des gens qui sont dans la souffrance. Et à ce moment-là, Saint-Pierre leur donne aussi de nouveau une clé pour eux. Mais regardez Jésus. Pierre, qui a été si proche de Jésus, l'exemple de Jésus pour lui, ça a changé quelque chose. Et du coup, ce qu'il a expérimenté avec Jésus, il le transmet à ceux qui sont dans la souffrance. Et de la sorte, ces gens-là pourront vivre un peu moins mal leur souffrance. C'est jamais drôle, la souffrance, ça c'est clair. Mais en même temps, grâce à ces paroles, ils trouveront un sens à leur souffrance, ils trouveront une fécondité à leur souffrance. Ça, c'était un premier exemple, celui de Saint-Pierre. Il y a un exemple qui nous tient peut-être à cœur cette année en particulier, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais cette année, donc, dans le diocèse, il y a, dans la paroisse plus précisément de Saint-Just-en-Chaussée, on fait mémoire du 400e anniversaire, donc ça nous ramène à 1617, si je calcule bien, où c'est comme une conversion pour Saint-Vincent de Paul. Saint-Vincent de Paul était déjà prêtre à ce moment-là, ça fait déjà 17 ans, je crois qu'il était prêtre, mais il n'était pas encore vraiment converti, donc il ne faut jamais désespérer. Mais là, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, c'est pas très loin, c'est un événement marquant dans la vie de Saint-Vincent de Paul. Ce jour-là, donc début 1617, il est appelé au chevet d'un meunier qui est mourant, et ce meunier a bien besoin de se confesser. Et alors, après, donc Saint-Vincent de Paul va pour le confesser, et après, ce meunier dit, témoigne que cette confession a été vraiment un moment de grâce pour lui. Alors, Madame de Gondy, là, qui accompagnait Saint-Vincent de Paul, dit à Saint-Vincent de Paul, ben, tu pourrais peut-être prêcher là devant tous les gens qui sont dans ce secteur pour qu'ils profitent aussi de cette grâce de la confession. Et alors, bon, Saint-Vincent de Paul, c'est un célèbre sermon de Saint-Vincent de Paul qui marque vraiment le début de son ministère. Et les Lazaristes, hein, la congrégation qu'il a fondée après, se fixe son origine à ce sermon du 25 janvier 1617. À ce moment-là, il prêche à tous ces paysans qui sont là, et tous se laissent toucher, un peu comme Saint-Pierre le matin de la Pentecôte. Alors d'abord, les paysans en profitent, et après ils veulent tous se confesser, mais surtout, Saint Vincent de Paul est changé ce jour-là. Il voit que Dieu s'est servi de lui pour toucher les cœurs. Et alors la vie de Saint Vincent de Paul, jusqu'ici Saint Vincent de Paul, c'était un peu par intérêt qu'il était prêtre. Bon, il était correct, il était honnête, mais en même temps, il voulait avoir de bons revenus, etc. Ce jour-là, sa vie change. Avant, c'était Vincent de Paul, après, ce sera Saint Vincent de Paul. Parce qu'à ce moment-là, il se laisse toucher par le besoin des gens et il voit que Dieu l'a choisi pour donner quelque chose aux gens. Et quelques mois après, alors ça sera un autre aspect de la vie de Saint Vincent de Paul, c'est il va commencer à organiser la charité pour les gens qui sont malheureux. Et ça nous donnera ce grand Saint Vincent de Paul. Mais tout a démarré en ce jour de 1617, donc pas très loin d'ici. Voilà, alors donc c'était deux petits exemples de vocation où ils ont pris conscience de la grâce qui leur était donnée. Mais alors vous me direz, mais bon, Dieu il pourrait toucher quand même, ça c'est mon deuxième point. Dieu il pourrait se débrouiller tout seul à la limite, il pourrait nous parler directement au cœur, et etc. Mais de fait, c'est pas comme ça que Dieu veut procéder. Alors ça arrive, hein, bien sûr que Dieu est plus grand que tout, il peut se passer de nous s'il veut. Mais aussi, Jésus a voulu venir sur terre, il aurait pu se passer de venir sur terre, hein, il ne l'a pas fait comme un voyage d'agrément, c'est clair. Mais pourquoi est-il venu? Une des raisons, c'est qu'il voulait qu'on le voie, qu'on puisse se toucher, qu'on ait un visage sur l'amour de Dieu, que ce ne soit pas trop abstrait pour nous l'amour de Dieu, mais qu'on le voit incarné dans une personne. Et en quelque sorte, une vocation, c'est ça aussi. C'est donner comme une humanité de surcroît à Jésus. Jésus qui veut, à travers une voix qui est ce qu'elle est, à travers un visage qui est ce qu'il est, à travers des mains qui sont ce qu'elles sont, il veut pouvoir rejoindre des gens aujourd'hui. Mais que ça soit bien concret, que ça soit pas juste à l'intime de notre prière, mais à travers un visage bien concret. Alors, j'aime bien une phrase, c'est un texte de Michel Quast, il n'est pas tout récent ce texte, mais il est toujours beau. Alors il met sur les lèvres de Jésus ces paroles. J'ai besoin de tes mains pour continuer à bénir. J'ai besoin de tes lèvres pour continuer à parler. J'ai besoin de ton corps pour continuer à souffrir, pour les pécheurs par exemple. J'ai besoin de ton cœur pour continuer à aimer et à rejoindre la détresse de ceux qui sont dans la misère. J'ai besoin de toi pour continuer à sauver, à pardonner. On pourrait ajouter, j'ai besoin de toi pour me rendre présent sous les espèces du pain et du vin. Voilà, alors, être appelé, c'est cette grâce de pouvoir donner à Jésus comme une humanité de surcroît pour rejoindre les gens d'aujourd'hui, pour qu'il y ait un visage concret. Je ne résiste pas à vous citer une petite parole du curé d'Ars. Il disait « À quoi servirait une maison remplie d'or si vous n'aviez personne pour ouvrir la porte ?» C'est quand même bien une maison remplie d'or. Hein ? Mais le prêtre a la clé des trésors célestes. C'est lui qui ouvre la porte. Il est l'économe du bon Dieu, l'administrateur de ses biens. Et alors tout à l'heure, je disais que Saint-Pierre a donné la clé pour comprendre ce qui se passait le jour de la Pentecôte. Mais quelque part, une vocation, et une vocation de prêtre en particulier, c'est comme une clé sur les trésors de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus qui sont là comme inutilisés en quelque sorte si personne n'est là pour transmettre ces trésors de grâce. Parce que, comme Jésus le dit dans l'Évangile, il est venu pour que les hommes aient la vie, et pas une vie rabougrie, mais pour qu'il ait en abondance. Voilà, alors, Donc, deux exemples, j'ai commencé par ça, Saint-Pierre et Saint-Vincent de Paul, et puis après, pourquoi Dieu veut se servir d'intermédiaire ? Parce qu'il veut des gens bien concrets. Alors, je termine par quelques petits points pratiques. C'est que, voilà, un premier, c'est, on dit, ben oui, bien sûr, mon père, mais on peut servir les autres sans être religieuse, on peut témoigner de Jésus sans être prêtre, et c'est vrai. Et il y a une multitude de laïcs qui font ça très très bien, qui ont une vie beaucoup plus rayonnante que bien des prêtres et des religieuses. Et pourtant, c'est quand même pas la même chose que de se rendre disponible à 100% pour Jésus. Alors bien sûr, ça implique des renoncements, ça implique de renoncer à se marier, avoir une famille, avoir une belle carrière professionnelle, bien sûr. Mais en même temps, je ne sais pas si je dois le dire, mais mon expérience, maintenant je commence à être vieux, hein, mon expérience c'est que le renoncement, on le mesure sans doute beaucoup plus quand on donne sa vie à Jésus pour être prêtre ou religieuse, ou on se dit « je ne me marierai pas ». Voilà, alors on le mesure, mais vous vous situez quelques années après, vous vous rendez compte que dans la vie du mariage, il y a aussi beaucoup de renoncements. Dans la vie familiale, il y a aussi beaucoup de renoncements. Mais ça, on ne le mesure pas au point de départ. On le mesure beaucoup moins que pour une vie consacrée. Mais dans toute vie, de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, il y a des renoncements. Hein. Mais alors, peut-être qu'on les fait au départ, on en a davantage conscience. Et après, on se rend compte qu'on a eu peut-être la chance d'avoir eu la grâce de pouvoir faire ces renoncements. Mais toujours, vous savez, on dit, c'est une expression qu'on emploie souvent, choisir, c'est renoncer. Et c'est vrai que, voilà, on ne peut pas avoir, selon une autre expression, le beurre et l'argent du beurre, mais est-ce que ça vaut la peine de donner toute sa vie à Jésus ? Bien sûr, ça comporte des renoncements, mais ça vaut la peine. Une deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est quelque chose qui peut nous aider dans notre discernement, c'est de se dire, mais quand on hésite, on se dit, ah, être prêtre, être marié, c'est de se situer, de se projeter quelques années en avant, dans 20 ou 30 ans, qu'est-ce que je considérerais comme vie, est-ce que je considérerais que ma vie est réussie, est-ce que je la considérerais réussie si j'ai une famille avec des enfants, etc., ou est-ce que je la considérerais réussie si j'ai pu, grâce à mon sacerdoce, conduire beaucoup de gens à Jésus. Et alors ça peut être une autre manière de réfléchir pour nous aider dans notre réflexion. Un autre élément encore, ce sera le dernier, hein, je ne vais pas être trop long, c'est que, bien sûr, une vocation, c'est toujours une réponse à un appel. Bien sûr, on ne devient pas prêtre si on n'a pas reçu un appel, on ne devient pas religieuse. Si personne religieuse, si on n'a pas reçu un appel, bien entendu. Parce que si on n'a pas un appel, ça rejoint un petit peu la parole que Jésus nous dit dans l'Évangile. Celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. C'est une grâce, la vocation. Il n'y a pas à en tirer orgueil, c'est quelque chose qui nous est offert. Et alors, ça serait grave de vouloir se donner la vocation. Mais dans la vocation, il y a l'appel qu'on perçoit, que la personne perçoit. Et puis, il y a aussi l'authentification, on pourrait dire, de cet appel par l'Église. Et ça aussi, c'est important. Donc, alors, quand on perçoit un appel, on va s'en ouvrir à un prêtre, une religieuse, au service des vocations du diocèse. Et alors, qui nous aide à discerner aussi du point de vue de l'Église, est-ce qu'il considère que oui, c'est un vrai appel. Et alors qu'il vient comme mettre un sceau sur cet appel, oui, je crois que Jésus t'appelle vraiment. Alors du coup, c'est pas simplement notre appel subjectif, c'est l'Église qui confirme cet appel et c'est précieux d'être confirmé, surtout dans des moments, dans toute vie, il y a des moments qui peuvent être difficiles, compliqués, il y a des tempêtes, c'est normal, c'est ça la vie. Mais à ce moment-là, on sait que ce n'est pas simplement mon appel subjectif, mais qu'il a été confirmé par l'Église qui a dit « Oui, je crois que je te confirme que Jésus te veut bien prêtre. » Alors c'est quelque chose aussi qui nous donne une assurance pour aller de l'avant. Voilà, Alors, une vocation, c'est beau, mais c'est comme une petite plantule qui est fragile. Alors, c'est ma conclusion, ça. Une plante, un gros chêne, tout ça, il faut quand même... C'est pas une petite sécheresse qui va le faire mourir, c'est pas une petite tempête, il faut quand même que ça souffre beaucoup. Mais une petite plantule, il faut quelquefois pas grand-chose pour la dessécher, pour la déraciner, pour qu'elle soit détruite. Et une vocation, c'est aussi quelque chose de fragile. Alors, pour nous, c'est l'appel, si on perçoit justement un appel de la part de Jésus de bien protéger, de bien en prendre soin. Et Marie, qui a veillé sur Jésus du début à la fin, si je puis dire, Marie est là aussi toute proche de ceux qui découvrent leur vocation pour aider cette vocation à s'épanouir pleinement, à grandir, à se fortifier, à triompher de certains obstacles aussi. Alors demandons à Marie qu'elle nous aide, qu'elle vous aide, ceux d'entre vous qui peut-être perçoivent un certain appel, qu'elle aide chacun à aller plus loin dans cet appel pour que cet appel puisse grandir et parvenir à sa maturité. Amen.